Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Recrudescence des enlèvements et disparitions à Bamako, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Les enlèvements et disparitions forcées sont courants au Mali, ils sont très souvent signalés dans la capitale même. Il y a près d'une semaine que le commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, est introuvable, même si ses camarades syndicalistes affirment qu'ils ont de ces nouvelles. Hier mercredi, nous avons appris l'enlèvement de Mamoun Mariko, chef du parti Krage Faso Nieta. Ces cas ne sont pas les seuls. Ces derniers temps, les disparitions ou enlèvements de personnes sont récurrents, je le disais tantôt. Les raisons de ces enlèvements ne sont pas connues, même après la libération des individus enlevés. Comment comprendre ce phénomène? Quelles peuvent être ses conséquences? Comment y mettre fin? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités, au nombre de trois, Zoumana Diarra, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Saloum Dedeou Traoré, également secrétaire général du réseau des défenseurs des droits humains, RDDH, et Moussa Cissé, sociologue, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Ce grand dialogue sera modéré par Sikou Gadjigo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif de ce thème, je le disais tantôt, le commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, mais aussi l'infirmier Famoussa Fomba sont introuvables depuis quelques jours. Ces disparitions ont même failli provoquer une grève illimitée du syndicat des surveillants de prison qui ont après décidé de revenir sur mesure d'arrêt de travail, puisque selon eux, le ministère de la Justice leur a donné la garantie qu'ils fera tout pour retrouver leurs camarades. Je vous invite de suivre ce reportage de Dramane Maïga sur le sujet.
Cette décision de suspension de la grève illimitée est tombée cet après-midi. Selon les responsables de la Synergie, le ministère de la Justice aurait donné des garanties pour retrouver les deux camarades disparus. Le commandant Daouda Konaté, surveillant de prison, et l'infirmier Famoussa Fomba ont été vus pour la dernière fois le vendredi 25 octobre. Selon ses proches, le commandant Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, a reçu un appel anonyme le vendredi vers 11h. Depuis, plus aucune nouvelle de lui, disent-ils. Dans un communiqué publié hier lundi, la Synergie a rappelé l'importance du dialogue social et la protection des droits des travailleurs. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, dont relève le syndicat également, qui avait projeté l'organisation d'un point de presse ce matin, l'a finalement annulé. Déjà, la Commission nationale des droits de l'homme a aussi exprimé sa préoccupation face aux disparitions forcées. Joint par notre rédaction, les responsables de la CNDH assurent qu'un dossier d'investigation est ouvert pour faire la lumière sur ces cas.
Alors, Monsieur Zoumana Diarra, vous êtes de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous êtes le secrétaire général de cette organisation. Que vous inspire ce phénomène, la recrudescence de ce phénomène, c'est-à-dire les enlèvements et disparitions forcées?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez, en tout cas à travers moi, la CNDH, pour intervenir, en tout cas échanger sur cette problématique majeure constitue une préoccupation extrêmement importante au regard des défenseurs des droits de l'homme et de façon générale et l'institution nationale des droits de l'homme qu'est la CNDH. Et en fait, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Mais je dois préciser que au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, on utilise plutôt le vocabulaire allégation de disparition forcée.
Okay.
Parce que dès qu'on parle de disparition forcée, lorsqu'on on regarde un peu la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et à l'article 2, la disparition forcée est définie comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute forme de privation de liberté. Et, en tout cas, commise par les agents de l'État ou par des personnes sur autorisation des agents de l'État. Donc, il y a la présence de l'État. En tout cas, l'État doit être derrière cet acte-là lorsqu'on veut le qualifier de disparition forcée. Troisième élément caractéristique de la disparition forcée, c'est que l'acte doit être suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté et de la dissimulation du sort réservé aux victimes. Donc, dans le but d'extraire la victime de toute protection de la loi. Donc, dans
est-ce
un premier
est-ce
temps...
Est-ce que dans certains contextes, dans certaines circonstances, c'est permis?
Alors, en fait, ce sont les victimes ou s'il y a des témoins qui peuvent faciliter, en tout cas, la mobilisation d'un certain nombre d'indices. Est-ce que la présence de l'État, il y avait des agents de l'État à côté? Est-ce que, dans quelles circonstances l'acte a eu lieu? Donc, mais dans la plupart des cas, les victimes, une fois retrouvées, ont même du mal à s'exprimer, à expliquer clairement ce qu'elles ont subi comme...
Oui, on va en parler, mais moi je voudrais d'abord vous demander, vous en tant que droit de l'homme, est-ce que c'est normal, est-ce que l'État a le droit, puisque l'État, d'après votre définition, il y a l'État qui est impliqué dans ça, est-ce que l'État a ce droit-là d'enlever quelqu'un, sans passer par les services judiciaires, par les services policiers, est-ce que c'est permis? C'est ce que je voulais savoir.
Non, en fait, c'est une violation des droits de l'homme. Et les procédures sont claires. Si on veut poursuivre quelqu'un, et, c'est très facile de passer par la voie judiciaire pour l'arrêter, pour lui notifier, en tout cas, les motifs de l'arrestation, etc. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qui doit prévaloir. Et non les situations de disparition forcée.
D'accord. Donc, Saloum Dédé, je m'adresse à vous maintenant, de Saloum Dédé ou Traoré. Donc, rien ne peut expliquer ces actes-là, selon vous, droit de l'homme.
Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour que je puisse m'exprimer sur ce cas vraiment qui est regrettable. Bon, la disparition forcée n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et comme mon camarade vient de le dire, la disparition forcée, c'est quand on ne sait plus là où se trouve la personne. Quand c'est aussi, on est plus ou moins sûr que c'est des agents de l'État qui l'ont amené. Mais c'est très simple, c'est très facile de disparaître. Disons, la disparition forcée est très simple, hein, parce que si on prend quelqu'un ou qu'on le met dans un abri ou je ne sais pas, quelque part, ou disons une maison ou une villa, etc., qui n'est pas reconnue comme une prison, qui n'est pas reconnue comme un lieu de détention, bon, ça va être très difficile aux gens de savoir où se trouve la personne. Et comme il l'a dit, si on doit arrêter quelqu'un, il y a quand même la justice qui est là, qui a tous les moyens pour pouvoir faire une instruction autour du cas de la personne, au lieu de faire disparaître cette personne.
Mais, ouais, mais est-ce que si c'est dans le cas où les services de l'État, en tout cas les services qui sont soupçonnés d'avoir arrêté la personne, sont en train de mener des investigations, des enquêtes dans une certaine discrétion, est-ce que cela ça peut se comprendre dans ce cas-là ou bien rien ne peut l'expliquer selon vous?
Bon, en tout cas, nous, dans notre travail de défense des droits humains, nous ne pouvons pas l'expliquer. Parce que pour nous, le service qui doit arrêter des personnes, les écouter, les juger, les blanchir ou les noircir, c'est la justice. Bon, nous savons que dans presque tous les pays du monde, il y a des services parallèles qui se permettent d'arrêter les gens. de les faire disparaître pendant un certain temps et les personnes peuvent réapparaître. Et comme il l'a dit, quand des personnes réapparaissent, là, ils ont tout un problème pour expliquer où ils étaient. Et ça, pour les défenseurs des droits humains, ce n'est pas du tout acceptable. Mais je vais être très clair, c'est que d'abord, il faut d'abord se rassurer que c'est des agents de l'État qui ont arrêté la personne. Parce que quand on disparaît, on peut disparaître parce qu'il y a des individus mal intentionnés, des bandits ou je ne sais pas quoi, qui peuvent vous enlever et vous faire disparaître. Mais dès qu'on est sûr, c'est-à-dire qu'il y a des indices qui ont montré que c'est des agents de l'État qui t'ont arrêté, ça devient une disparition forcée.
Oui, mais souvent, on ne le sait pas, puisque c'est des individus cagoulés avec des armes. Peut-être la personne qui a été arrêtée, on lui a indiqué que voilà, on est des agents de l'État en lui montrant peut-être des pièces, mais sa famille, ses proches ne savent pas. Ils voient quand même qu'il a été enlevé par des gens armés, cagoulés, des véhicules qui ne sont même pas immatriculés souvent. Est-ce que c'est facile de savoir que c'est l'État qui est derrière tout de suite?
Bon, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui se dissimulent d'une certaine façon pour venir faire l'arrestation. Donc, ça veut dire que c'est déjà illégal. Parce que si c'était légal, je ne vois pas pourquoi ils vont se cacher, se cagouler, etc., pour venir arrêter la personne. Et de toutes les façons, nous ne nous expliquons même pas ça. Parce que toutes les personnes, et même l'État, sont justiciables. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas acceptable, ben, il faut l'arrêter judiciairement. Et puis c'est tout, quoi, au lieu de faire disparaître. Parce que le problème des disparitions, c'est que ceux qui viennent prendre la personne et l'amener, disons, quelque part dans une cachette, etc., ils vont se donner tous les droits sur cette personne. On peut torturer la personne, on peut vraiment lui faire tout. Et ce qui est grave, c'est que si personne, par exemple, s'il subit une torture extrêmement grave et qu'il perd la vie, eh bien, il reste disparu parce que personne ne dira, personne ne saura exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Et les parents, les proches vont rester dans l'incertitude pendant presque toute leur vie.
D'accord. Monsieur Cissé, Moussa Cissé, vous êtes enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Vous, comment vous analysez la recrudescence de ce phénomène? Depuis quelque temps, nous voyons que des gens sont enlevés en plein cœur de Bamako sans qu'on le sache tout de suite qui les ont enlevés. Comment vous expliquez cela?
Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour s'exprimer autour de cette question. Au plan psychosocial, ces comportements dénotent la crise. Crise relationnelle, crise, sentiment de frustration, des incompréhensions, des manques de communication et de collaboration. Donc, ça veut dire que les gens ne se font pas confiance.
Ok, donc, les gens ne se font pas confiance concrètement. Quand vous parlez de crise relationnelle, entre qui et qui, la population et l'État, ou entre qui et qui, vous dites que ça dénote d'une crise relationnelle.
Déjà, quand il y a malentendu, jusqu'à arriver à l'enlèvement forcé, ça veut dire déjà que c'est comparable à un conflit, deux camps, le camp A et le camp B. Ça veut dire qu'il y a de l'incompréhension, il y a un sentiment de méfiance, de mépris de l'un de l'autre qui pousse, qui est comparable à une sorte de règlement de compte. Parce que déjà, à entendre les juristes, ça n'a pas été fait dans les normes requises par la justice, ni par la jurisprudence. Bon, maintenant, déjà, ça veut dire qu'il y a un sentiment de vengeance, un sentiment de règlement de compte. Voilà, c'est sur ce socle-là, tout ceci naît sur un socle de frustration et d'incompréhension entre les individus. Sinon, à mon avis, s'il y a la communication, la collaboration, je crois que la compréhension va naître, on ne va pas arriver jusqu'à ce sentiment de conflit. C'est comme un conflit entre deux camps. Voilà. Le plus souvent, si vous voyez ces agitations, ces troubles, ce sont des signaux, des indicateurs qui veulent dire que en tout cas entre deux parties, ça ne fonctionne pas bien. Alors il faut se poser des questions. Comment résoudre ces incompréhensions? Et pour résoudre ces incompréhensions, les voies de sortie indiquées, et si vous me le permettez...
Oui, peut-être qu'on va aborder cette partie-là un peu plus tard au cours du débat, mais je voulais demander au droit de l'homme, lorsque vous apprenez ces cas d'enlèvement, par exemple, vos organisations, lorsqu'on vous saisit, par exemple, quelqu'un vous saisit, un proche ou bien un collaborateur vient vers vous, qu'est-ce que vous faites? Ou bien souvent, il arrive que vous-même vous vous auto-saisissez de ces cas-là, lorsque vous vous apprenez, qu'est-ce que vous faites concrètement, Zoumana Diarra?
Alors, de par la loi de création de la Commission nationale des droits de l'homme, celle-ci peut être saisie individuellement ou collectivement. Et elle peut également, la CNDAS peut également s'auto-saisir. Alors, dans les deux cas, on mène des investigations. On recoupe des informations parce que la triangulation des sources d'informations est un principe extrêmement important pour l'Institution nationale des droits de l'homme, en particulier pour les droits de l'homme de façon générale. Alors, on essaie de documenter et dans la plupart des cas, on rédige une lettre de dénonciation et de recommandation qu'on adresse aux autorités compétentes. Alors, en la matière, on écrit souvent au ministère en charge de la justice et des droits de l'homme, avec ampliation du ministère de la sécurité, du ministère de la défense, etc. Et donc, voilà comment on procède.
Est-ce que vous êtes répondu? Vous recevez des réponses?
Pas assez souvent, mais nos courriers produisent souvent parfois des impacts, hein, parce que on a eu à écrire et quelques jours après, des gens ont été retrouvés. Donc on peut dire que, en tout cas, nos actions ont contribué à la libération de certaines victimes.
Salom Dedeo.
Voilà, très bien. Effectivement, il arrive qu'on ait des réponses, mais notre travail consiste à avertir, notre travail consiste à dénoncer. Et quand la dénonciation est faite, que nous recevions une réponse ou non, nous savons qu'il y a un agissement quelque part, nous savons qu'il y a action. Maintenant, moi, j'ai eu plusieurs fois des exemples où j'ai reçu des réponses. Lorsque j'étais le directeur d'Amnesty International, eh bien, il y a eu des disparitions. Il y a eu beaucoup de disparitions. Et pendant ces disparitions, chaque fois qu'il y a disparition, moi, j'écris. Quand les parents me saisissent, j'écris tout de suite au ministère de la Justice ou au ministère de la Défense, etc. Et j'ai eu quelquefois des réponses. Et généralement, dans la réponse, on me dit que la personne se trouve quelque part, et généralement, la personne se trouve dans quelque part, mais un endroit normal, un endroit où on peut détenir quelqu'un. Je me rappelle encore, il y a une dame qui était venue me voir et qui a dit que son mari avait disparu 15 jours. Et lorsque nous avons écrit, quelques temps après, on m'a écrit pour me dire que le mari était détenu au camp 1 de la gendarmerie. Et donc, la dame a pu avoir accès tout de suite à son mari. Et puis, voilà. Il y avait un jeune homme aussi, un étudiant, qui avait disparu vers Manyambougou. Il a quitté son grain et puis il était là, il causait avec ses camarades. Il est sorti et quelques mètres après, on a vu qu'il y avait une voiture de la police qu'il avait enlevée. Donc, ce sont ses camarades même qui sont partis voir ses parents pour informer et venir me voir pour m'informer. Et nous avons écrit. Et effectivement, c'était la sécurité d'État ce jour-là. Et quelques temps après, le monsieur a été libéré et il est venu me voir au bureau pour présenter des remerciements et m'expliquer qu'effectivement, eh bien, il avait été arrêté parce que il y a eu ceci, il y a eu cela. Quelques temps après, j'ai reçu une correspondance du ministère de la Justice pour me dire que eh bien, c'était un mépris. Alors, il y avait quelqu'un qui a fait un acte délictueux et on pensait que c'était lui, on l'avait arrêté, mais après, on l'a libéré.
Mais est-ce qu'il vous arrive souvent, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, d'avoir des rencontres avec les services de l'État, notamment le ministère de la Justice, par exemple, et d'échanger sur ces pratiques-là qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme conséquence, l'illégalité de ces pratiques? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rencontres, des débats sur ces questions, Zoumana?
Oui, dans nos échanges, il apparaît clairement, en tout cas, tout ce qui est disparition forcée, en tout cas, que c'est une pratique qui est condamnable, un phénomène qui n'est pas acceptable, et que l'État, en tout cas, en tant que premier responsable en matière de protection des droits de l'homme, doit tout entreprendre pour pouvoir mettre fin au développement de ce phénomène-là. Donc ça apparaît clairement dans nos échanges et dans nos rapports annuels sur la situation des droits de l'homme qui font objet de débats en plénière au niveau du Parlement. Et le sujet apparaît assez souvent aussi.
D'accord. Donc l'État en est pleinement conscient de ce que ça peut avoir comme conséquence, mais aussi du caractère illégal de la pratique. Saloum Dedeou Traoré, si on peut parler un peu des conséquences de ces pratiques-là. C'est vrai que l'État peut se permettre certaines choses, mais c'est des pratiques aussi qui peuvent avoir des conséquences.
Bon, vous savez, ces disparitions forcées, quand c'est reconnu que c'est l'État, c'est toujours le service des renseignements. Et il se trouve que ce service-là se trouve dans tous les pays du monde. Mais écoute, ce service-là, c'est un service qui ne se retrouve pas dans l'arsenal, dans le processus de la justice. Et c'est illégal, même si ça se trouve dans tous les pays du monde. Vous en connaissez des grands services comme ça aux États-Unis, etc. Et en Russie, tout ça, le KGB, tout ça, etc. etc. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que quand ça arrive, nous mobilisons. Nous rencontrons très souvent les ministres de la Justice. Le ministre de la Justice, nous avons rencontré plusieurs fois des ministres de la Justice et qui nous promettent, en tout cas, comme il l'a dit, qu'ils vont tout faire pour que ça puisse vraiment diminuer. Il y a même des ministres de la Justice qui se sont ajoutés à nous pour démontrer que ce n'est pas normal et qui ont promis d'engager des discussions avec la sécurité d'État pour que dès que quelqu'un a été appréhendé, que ces services-là les donnent directement à leur service pour pouvoir vraiment légaliser, disons, la chose, pour que ça puisse être vraiment légal. Bon, donc, ça veut dire que les ministères de la Justice aussi, bon, souvent, ils ne sont vraiment pas contents. C'est le même gouvernement, hein, ça, il faut le dire, hein, mais souvent, le ministère de la Justice se trouve pris au dépourvu. Et bon, comme il y a la solidarité gouvernementale, etc., ils essayent de ne pas trop se prononcer. Mais quand nous, on va à eux, ils nous disent qu'effectivement, ils sont en train de tout faire pour que ça cesse. Mais ça ne cessera pas. Hein.
Pas facilement. Oui, mais parlons des conséquences. Est-ce que ces pratiques-là, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme conséquences dans le pays, sur la population? Et à chaque fois, des gens sont enlevés, sont pris de force. Et voilà, leurs proches, leurs familles peuvent passer des jours avant d'avoir des nouvelles. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence?
Bon, je pense que la première conséquence, c'est que, eh bien, c'est un risque généralisé pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, pour toi, pour n'importe qui.
Personne n'est en sécurité.
Peur, voilà, on a peur d'être enlevé un jour. Bon, donc ça, c'est déjà de la psychose. Et je sais que le psychologue va peut-être en parler. Et c'est intolérable. Et la personne qu'on a fait disparaître, ses parents vont rester dans l'expectative. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est arrivé à leurs parents. Et ils sont vraiment... psychologiquement, ça les touche. Et puis, dans la société, il a dit, ça dénote d'une certaine incompréhension entre les gens, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas normal quand même que quand il y a des services judiciaires qui sont là avec tout le personnel nécessaire, etc., que d'autres personnes s'arrogent le droit d'arrêter des gens, les torturer peut-être, pour pouvoir extraire des informations.
Voilà. D'accord. Monsieur Cissé, vous, en tant que sociologue, les conséquences de ces pratiques-là sur la société même, sur les relations entre les citoyens et l'État, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça, aux conséquences de ce phénomène ?
Je dirais que chaque fois qu'il y a crise, ça veut dire quelque part on est dans la normalité. Alors, ça crée deux parties, un dominant et un dominé. Alors, chez le dominé, ça crée un sentiment de méfiance, un sentiment de crainte, un sentiment de panique générale, qui, par excès, va donner une sorte de psychose, une forme de folie sociale, donc une sorte de maladie. Donc la société se sent mal à l'aise. Donc une population stressée qui, si à court terme, ça peut dégénérer à d'autres formes de maladies, comme par exemple les cancers, comme par exemple parce que les gens ne s'épanouissent pas. Les gens sont dans l'extrême peur, dans le doute. Donc ça crée, ça peut être débouché à des maladies graves, comme par exemple les crises d'estomac, les tensions. Et jusqu'à l'extrême, c'est généré à un sentiment de phobie, de vengeance, parce que là, il va y avoir des camps, puisque dans la société, chacun de nous appartient à une chaîne de relations, à une chaîne de solidarité. Donc, la personne n'est jamais seule dans la société. On est dans un groupe. Donc, ça peut aller dans un sentiment de sous-groupage, un sentiment de violence, un sentiment d'autodéfense. Alors, moi, je crois que tout ça, là, quand on dit, tout ça débouche du non-respect de la procédure, des règles établies par la société. Donc, à chaque fois qu'on fait recours à la violence, à chaque fois qu'on s'impose, donc ça veut dire qu'on est en violation des principes établis. Sinon, dans notre société, il y a tellement de recours dans les pareils sociaux. Nous avons ici des communicateurs qui sont spécialisés dans ça. D'abord, avant toutes ces pratiques, on a des recours sociaux, n'est-ce pas ? Il y a aussi le dialogue. Il faut toujours échanger avec la personne. Parce que souvent, comme le dit psychologiquement ou bien socialement, l'ennemi n'est jamais ce que la personne que nous prenons considère ennemi. Psychologiquement et traditionnellement, l'ennemi n'est jamais à battre. Il a quelque chose à t'apprendre. Peut-être que le plus souvent, ce que les gens te cachent, te murmurent, c'est lui qui a le courage de venir te dire facialement. Donc, il faut l'écouter. Il a un message à te transmettre. Donc, et souvent, après des chocs, l'ennemi peut devenir un très bon ami. Mais moi, je crois qu'il faut mettre vraiment le dialogue, la compréhension au-dessus de tout ce quoi. Il faut mettre l'esprit oui. Au lieu du cœur, quoi.
Oui, mais maintenant, voilà. les proches, les parents, de oui, allez-y, vous voulez.
Oui, au niveau des conséquences, je dois en citer au moins deux.
Oui.
La première, c'est que ça développe ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Parce que, tout simplement, chacun vit avec la peur au ventre. Et personne n'est à l'abri. On sort de chez soi le matin. Après, on ne sait jamais. On n'est pas sûr de rentrer sauf chez lui. Donc, ça développe le sentiment d'insécurité. Deuxième élément de conséquence, c'est que ça peut impacter sur la procédure judiciaire. Parce que si derrière les dossiers sont judiciarisés et que les victimes subissent des actes de torture pendant leur disparition forcée, et cela peut même conduire à l'annulation des procédures judiciaires. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'il faut véritablement combattre. Et l'État doit prendre ses responsabilités pour cela.
Oui, mais je disais tantôt, les proches, les parents, les collaborateurs, les amis de la personne enlevée, par exemple, qui sont aussi affectés. Est-ce qu'il y a souvent un accompagnement dont bénéficient ces derniers. Est-ce que, par exemple, les organisations de défense des droits humains ou bien des services de l'État qui sont là, auprès desquels ces personnes-là peuvent se rendre peut-être pour être assistées psychologiquement, est-ce que ça existe, M. Diarra?
À ma connaissance, il n'y a vraiment pas un système d'assistance psychologique, sociale et en faveur des victimes de disparition forcée au Mali. Je pense que l'État a beaucoup à faire à ce niveau parce que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées que le Mali a ratifié en 2009, si je ne me trompe pas, et n'a toujours pas été domestiqué, n'a pas été en tout cas transposé dans l'ordonnancement juridique. Donc si on fait cela, je pense que dans le cadre de la transposition, on pouvait prévoir des mesures de réparation, des mesures d'accompagnement psychologique, des mesures d'assistance aux victimes de la disparition forcée.
Alors, est-ce que vous arrivez, après la libération des personnes enlevées, est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec ces personnes et à peut-être essayer de comprendre ce qui leur est arrivé pendant leur disparition? Est-ce que certains acceptent de s'exprimer?
Alors, il y a deux types. Le premier type, en fait, des gens qui disparaissent, après réapparaissent. Il y a beaucoup qui ont du mal à s'exprimer, à raconter ce qu'ils ont vécu. Moi-même, j'ai eu personnellement, dans le cadre de la CNDH, on m'avait confié un dossier, j'ai appelé la victime. Je lui ai demandé un entretien, etc. La personne m'a toujours promis de venir, etc. Mais elle n'a jamais souhaité rencontrer la CNDH.
Mais est-ce que cette victime, on savait qui était derrière son enlèvement?
Parce que tant que la victime ne s'exprime pas, après, on a du mal, on va toujours rester dans les allégations, les vocabulaires allégations, parce qu'on n'est jamais sûr que... C'est l'État qui est derrière. Mais lorsqu'on analyse bien la situation, dans la plupart des cas, les victimes, en tout cas, c'est en lien avec ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'opinion, etc., notamment à travers les réseaux sociaux. Donc sur la base de cela, on peut dire ou affirmer que l'État peut directement ou indirectement être derrière. Donc, deuxième type de victimes, ceux dont les dossiers ont été judiciarisés. Avec des gens, ils disparaissent, mais après, ils se retrouvent au niveau de la maison d'arrêt, au niveau du camp, etc. Et donc là, la CNDH, dans le cadre de ses missions de monitoring dans les lieux de privation de liberté, arrive à échanger avec ces victimes-là. Et il y a beaucoup qui racontent en détail ce qu'elles ont vécu dans le cadre de leur disparition.
Souleymane Salim Dedeo Traoré, vous, votre organisation, est-ce qu'il arrive qu'elle parvienne à faire parler des victimes qui ont été enlevées et après leur libération, qui acceptent de dire comment elles ont vécu cette période-là?
Bon, nous, notre organisation s'occupe beaucoup plus de travailler à la libération de la personne. Et très souvent, quand la personne est libérée, bon, le reste là, on ne se met pas trop là-dedans parce qu'en fait, en ce moment-là, on va devenir juge, parce que de toutes les façons, tout ce que nous pouvons demander à la personne. C'est bon, et voilà, vous avez disparu, nous avons œuvré, on a peut-être mobilisé des gens. Parfois, nous mobilisons des gens, on fait vraiment des mouvements. Dans le cadre d'Amnesty International, par exemple, c'est le monde entier qu'on mobilise. Telle personne a disparu dans tel pays. Le gouvernement de ce pays reçoit en un jour, deux jours, plus de 200 à 300 000 lettres pour dire, bon, libérez telle personne ou bien faites réapparaître telle personne, on n'est pas d'accord, etc. Bon, mais quand la personne est libérée, bon, nous, vraiment, le reste là, Nous laissons ça à la justice, la personne peut aller se plaindre.
Mais vous êtes là aussi pour dénoncer certaines pratiques comme les tortures. Est-ce que vous pouvez dénoncer cela si vous ne savez pas que la personne, pendant sa détention, sinon sa période de disparition, elle a subi ces pratiques-là?
Bon, évidemment, si la personne nous dit...
Ou bien, une fois que la personne est apparue, c'est bon, c'est fini, même si elle a été torturée, voilà, ce n'est plus...
Non, ce n'est pas ça. Nous sommes vraiment très concernés par la torture. Et si la personne nous dit qu'elle a été torturée, nous écrivons tout de suite pour, disons, dénoncer ça et demander à ce que ça n'arrive plus.
Oui.
Voilà.
D'accord. Monsieur Cissé, vous, en tant qu'enseignant, chercheur, nous avons vu, même si c'est des pratiques, comme les droits de l'homme l'ont dit, c'est des pratiques qui ont existé, qui existent toujours, même dans d'autres pays. Mais comment faire aujourd'hui pour amoindrir, pour que, voilà, que ça n'atteigne pas, en tout cas, une certaine ampleur dans notre pays? Comment, si on n'arrive pas à mettre fin à ça, mais quand même pour réduire de façon considérable, comment faire ça aujourd'hui?
D'accord, mais bien avant, je voudrais bien me prononcer par rapport à cette prise en charge psychologique, cet accompagnement psychologique. Parce que je dirais que, par mes connaissances, les gens ignorent que le centre de psychiatrie du Point G est là pour l'accompagnement psychologique des individus en souffrance. Dès que la personne subisse une maltraitance ou bien un choc psychologique ou corporel, pour l'accompagner mentalement, la psychiatrie du Point G s'occupe de cela. Il y a des grands professeurs en psychologie et en sociologie qui sont là pour cet accompagnement. Parce que l'être humain est affecté dans sa chair ou dans son mental, ça va toujours se répercuter sur le mental. Donc, quel que soit le genre de secousse subie par l'individu, il doit obligatoirement bénéficier de cet accompagnement du centre psychique. Et puis, de par la structuration de notre société, il y a un accompagnement non formel qui se passe dans notre société. Parce que déjà, la personne, une fois qu'elle est là, à partir des petits contacts, on l'appelle. Et puis, au retour aussi, les gens vont saluer, les gens vont partager sa douleur. Donc, ça lui donne un sentiment qu'il n'est plus seul. Il partage ça, la douleur. Bon, donc, aussi, il y a des techniques. Par exemple, la justice doit se faire aider par des psychologues afin de pouvoir inciter ces individus à pouvoir expliquer. Parce qu'il y a des techniques appropriées pour les faire parler. Parce que vous allez trouver que la personne à sa sortie, pour lui d'abord, nous, mentalement, aller en prison, c'est la haine, c'est un sentiment de haine, c'est la dignité bafouée. Donc on veut plutôt se taire et puis ça crée une certaine phobie. Tu n'as plus confiance à personne. Donc les psychologues, ayant vraiment cette préparation, ayant préparé des techniques pour ça, peuvent vraiment recourir, leur faire parler. Parce qu'en les faisant parler, c'est une façon de leur faire débarrasser de leur venin. Leur silence-là, ça va les détruire. Il faut mieux leur faire parler que de les laisser se taire. Donc aujourd'hui, je conseillerais vraiment à la justice vraiment d'avoir des conseillers psychologiques pour peut-être prodiguer ces petits conseils ou bien leur faciliter souvent leur démarche. Voilà.
Alors, ma question maintenant, comment, en tout cas, si on ne peut pas mettre fin à ces pratiques, en tout cas les réduire considérablement, comment éviter à chaque fois qu'on enlève quelqu'un dans la rue, dans une cérémonie, voilà, alors qu'on peut passer par d'autres moyens plus appropriés?
D'abord, je dirais, vous savez, ce problème-là, de perturbation sociale agissait depuis. Et puis, il y a eu des solutions par le passé. La première solution, d'abord, au plan juridique, c'est la séparation des pouvoirs. Il faudrait que chaque pouvoir ait une autorité qui a un domaine, un champ d'action, chacun dans son champ, qu'il n'y a pas de télescopage, qu'il n'y a pas de conflit de compétences. Et pour cela, le respect de la loi, c'est-à-dire des normes établies par la société. Ça, c'est la première solution. La séparation des pouvoirs et aussi chacun dans son domaine. Et grosso modo, la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Que la loi s'applique dans sa dimension. Parce que les lois sont établies, c'est pour protéger les forts et les faibles. Ce n'est pas seulement contre, mais c'est la sécurité du fort et du faible, donc de l'homme et la cité. Donc c'est l'harmonie de la société, c'est le garant de l'harmonie de la cité, de la société. Deux, il faut trouver des espaces de concertation, que tout ne soit pas la prison. Par exemple, les gardes-vues, là, c'est fait pour ça, on leur donne un temps, ils sont là, ils ne sont pas en prison, mais ils sont là pour... Donc il faut trouver d'autres espaces intermédiaires, facilitant vraiment la compréhension, parce que le plus souvent, toutes ces pratiques-là naissent de l'incompréhension. Mais chaque fois que vous vous parlez, vous partagez les choses, la compréhension va venir et puis l'entente va continuer. Et je conseillerais à l'état actuel des choses, pourquoi on ne va pas vers le pardon national? Parce que cette situation ne profite à personne, ni les gouvernants, ni les gouvernés. Donc il faudrait qu'à un moment donné, qu'on ait le courage d'aller vers ce sentiment de pardon national. Et pour le gagner, il faut quand même faire recours au créneau socialement établi, au créneau juridique, ou si vous voulez, des compétences locales, des compétences sous-régionales, et des compétences nationales, pourquoi pas même des compétences internationales, parce que la paix, là, c'est le socle de tout. Hein. Parce que tout ce trébuchement-là, tout ce que nous vivons, c'est que quelque part, c'est ce que j'ai dit à l'entame de Dieu, tout ça là, a pour socle la crise relationnelle, la crise de façon générale. Maintenant, la solution, la crise, pourquoi parler de crise? Parce que la paix est menacée. Si la paix est menacée, l'insécurité va planer. Et dans la sécurité, il va créer un sentiment de méfiance, un sentiment d'aggravation qui ne fait que s'empirer la chose. Pour moi, il est l'heure de faire un petit retour et essayer d'avoir vraiment ce courage, que tout le monde ait ce courage d'aller aujourd'hui vers le pardon national et redémarrer de nouveau.
D'accord. Voilà. Cela est bien compris. Je viens vers vous maintenant, les deux droits de l'homme. Comment mettre fin à ces pratiques? Sinon, si on ne peut pas mettre fin, comment vraiment les réduire, quoi? Puisque de plus en plus, il y a un sentiment de peur, de terreur qui est là dans la société et qui peut avoir d'autres conséquences. Et si toutefois on n'arrivait pas à vraiment réduire considérablement ce phénomène-là, Monsieur Diarra.
Alors, je voudrais, avant de répondre à cette question, rebondir sur les propos du doyen Traoré. Et il ne faut pas que nos actions, en tout cas les actions de défense des droits de l'homme, se limitent à la libération des victimes. Il faut absolument que nos actions aillent au-delà. Parce que si on veut mettre fin au phénomène, il faut en tout cas continuer à dénoncer, même après la libération. Il faut saisir les voies de recours, hein, tant au niveau national, à travers la justice, qu'au niveau international. Parce que la Convention sur la question est claire là-dessus. Hein, l'État doit tout entreprendre pour poursuivre les auteurs de disparition forcée. Donc, tant qu'on ne poursuit pas les auteurs de disparition forcée, et tant qu'on ne saisit pas les voies de recours, y compris au niveau international, on va difficilement mettre fin au phénomène. Et par rapport au propos de M. Cissé, très rapidement, en fait, la question est celle de savoir est-ce qu'il y a un mécanisme spécifiquement pour la prise en charge des victimes de disparitions forcées. Ma réponse était non, parce que le cas de Point G, c'est vraiment de façon générale. Quoi.
Oui, voilà. D'accord. Saloum Dédé, on termine par vous. Comment mettre fin, sinon comment vraiment réduire considérablement ces cas-là d'enlèvement, de disparition?
Mais il est important quand même de préciser que ces disparitions, comme il l'a dit, ça n'a pas commencé maintenant. Et que ce n'est pas le travail...
Oui, mais le phénomène s'est amplifié ces derniers temps quand même.
Bon, le phénomène s'est amplifié. Peut-être c'est parce que la vérité est là. C'est-à-dire qu'on est dans un régime mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas si on est dans une démocratie ou bien on est dans une anarchie. Enfin, disons une monarchie ou je ne sais pas comment. Parce que nous savons quand même que depuis que ces autorités sont là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entreprises. Il y avait d'abord la charte, hein, et puis ensuite il y a eu la constitution. Donc tout ça, ça montre qu'on est en train d'évoluer vers une certaine démocratie. Mais en même temps, bon, vous savez, hein, quand un régime est militaire, souvent il y a des gens qui se donnent beaucoup plus de force à cause de leurs armes. Et donc, c'est arrivé qu'il y a eu ces exactions. Bon, nous, en tant que défense des droits humains, tout ce que nous pouvons faire, c'est de la sensibilisation. Nous faisons des formations aux droits de l'homme. D'accord. Qui nous permettent de faire savoir aux gens qu'il faut, faut faire recours à la loi et non à la force.
D'accord.
Il faut la force des arguments et non les arguments de la force.
D'accord. Cela est bien compris et c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Le temps imparti est terminé. Merci à nos invités, Monsieur Zoumana Diarra, il est le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Saloum Dedeou Traoré, secrétaire général également du réseau des défenseurs des droits humains RDDH, et Moussa Cissé, sociologue, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. On parlait aujourd'hui de la recrudescence des enlèvements et disparitions à Bamako. Sekou Gadjigo a modéré ce grand dialogue réalisé par Imran Akilou Maïga, la mise en onde de Yavé Fili Dambélé, régie vidéo Mamadou Ouattara. Merci et à la prochaine pour un autre débat.